Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 12 avril l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
Nous allions commencer à voir ce que nous pouvons saisir de la relation. C'est très curieux que la relation fait le lien entre philosophie réaliste, philosophie idéaliste. Autrement dit, la relation reste le point de contact entre une philosophie idéaliste genre Hegel et une philosophie réaliste genre Aristote. Oui. Le combat angélique entre Aristote et Hegel serait très intéressant. Et dans les philosophies françaises, Hamelin. C'est intéressant, Hamelin, parce que c'est un philosophe matheux. Et il y a des philosophes matheux, même en phénoménologie. Et la relation joue en mathématiques un rôle capital. Donc, la relation va être un lieu où on va se rencontrer pour le bataille. Pour la bataille et le lieu où la bataille est la plus forte. Pourquoi ? C'est très simple. C'est que la relation est véritablement relation, même dans une relation de raison. Il y a des relations réelles et des relations de raison. Et la relation de raison est une relation. Alors, vous voyez, on comprend pourquoi l'idéalisme et le philosophe de la réalité vont se retrouver en face de la relation. Dans une philosophie idéaliste, la substance va se définir en fonction de la relation. Chez Hegel, la substance est comme la synthèse de toutes les relations. Vous voyez, la relation définit la substance. La substance est relative à la relation. Donc, la relation est première. Et c'est toujours cela. On doit regarder dans une philosophie qu'est-ce qui est premier, substance ou relation. On est devant les deux extrêmes. Oui, une substance de raison, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien du tout. Une relation de raison, ça veut dire quelque chose. Au point de vue signification, la substance de raison, c'est la substance est principe de la réalité, donc elle ne peut pas être une substance de raison. C'est contradictoire, dire une substance de raison. Tandis que vous pouvez parler d'une relation de raison. Et ce n'est pas rien de parler d'une relation de raison. C'est une vraie relation. Et elle est de raison. C'est-à-dire qu'elle est fabriquée par l'intelligence. Quand je dis relation de raison, le fondement est mon acte d'intelligence. C'est moi-même qui construis des relations. C'est mon seul pouvoir. Je ne peux pas faire que la réalité soit. Ça, c'est le pouvoir du Créateur. Mais je peux faire que la relation est. curieux, ça. L'artiste est créateur parce qu'il crée de nouvelles relations qui n'étaient pas prévues avant. Et le génie de l'artiste se trouve dans ce fait de cette invention, cette création de nouvelles relations. Il crée de nouvelles relations. Et alors, il est génial. Et par la création de nouvelles relations, il va créer, il va mettre le fondement d'un nouvel édifice. Quelle est la relation de raison ? Quand je dis par exemple que la création du côté de la créature est réelle, je suis une créature en dépendance du créateur. Je suis en relation avec le créateur. Et du côté de Dieu, c'est une relation de raison. Ça ne change rien à Dieu, que Dieu soit créateur. Alors, quand on dit ça, on dit, mais alors qu'est-ce que ça signifie ? Mais oui, c'est moi-même qui crée cette relation du côté de Dieu. Du côté de Dieu, la création ne change rien. Alors, c'est très curieux que l'idéalisme, lorsque un idéaliste est chrétien, et ça arrive assez souvent, n'est-ce pas ? Au fond, la nouvelle théologie qui est en train de se faire, c'est une théologie hegélienne. C'est donc le protestantisme qui pénètre dans l'Église catholique et qui la saborde. C'est ça ce qui se passe. Vous voyez, le protestantisme, Luther, a été condamné et a été mis en dehors de l'Église. Bon. Luther a dit que l'intelligence était incapable par elle-même d'atteindre la vérité. Donc, on ne pouvait pas démontrer l'existence de Dieu, d'un Dieu créateur. Et c'est toujours là-dessus, même actuellement, qu'on voit la tension la plus grande avec un vrai luthérien. J'ai écrit un petit dialogue avec le pasteur Finet. On l'oublie pas, celui-là. N'est-ce pas, il s'appelle Finet. Là, parce qu'il y avait le père Finet à Châteauneuf, et puis il y avait le pasteur Finet à Paris. Alors, ça a été très bien, le dialogue marchait très très bien, puis on a abordé le problème de la possibilité pour l'intelligence d'atteindre Dieu. Et j'ai tout de suite vu mon pasteur luthérien dire, ah là, c'est l'abîme entre les chrétiens et les protestants, et les luthériens. Nous ne pouvons pas admettre que l'intelligence puisse démontrer l'existence de Dieu. Donc, la conséquence, c'est qu'il ne peut pas y avoir de théologie. La conséquence immédiate, c'est cela. C'est qu'il y a la foi, et la foi seule, sola fide. Et la théologie ne peut pas, parce que l'intelligence est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Donc tout ce que l'intelligence fait, c'est d'humaniser le point de vue de la parole de Dieu, la rendre humaine, comme une parole qui est humaine, comme une autre parole. Le caractère proprement divin est insaisissable. Je ne peux pas, mon intelligence est complètement fermée à l'existence de Dieu. Donc, la conséquence, c'est qu'il va voir. Ce qui est très curieux, c'est que la théologie idéaliste est née dans le protestantisme, qu'elle a grandi et qu'elle aboutit à Hegel. Et qu'en face de Hegel, beaucoup de catholiques sont bobards. Ça, c'est la théologie moderne, c'est ça qu'il faut. On doit pas ça. Mais vous ne voyez pas d'où elle vient. Vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a à la racine de cela. C'est très étonnant de voir que Luther pénètre dans l'Église catholique par Hegel. Et que il a été mis en dehors de l'Église catholique au point de vue de la foi, et il est rentré, ou plus exactement, il rentre dans l'Église catholique par la théologie. C'est un phénomène auquel nous insistons. Bon, on le voit ou on ne le voit pas. Hein. Mais quand on le voit, c'est très curieux. C'est très étonnant. Parce que c'est manifeste. Alors, pour Hegel, la substance, la somme de toutes les relations. Donc, vous voyez, en réalité, les relations. Parce que la somme de toutes les relations ne change pas la relation. L'être est absent. Et la substance est vue par rapport à la relation. La relation demeure première. C'est intéressant. La parole d'Aristote, si la relation est l'être le plus débile, l'être pénètre comme un pauvre par la relation. Et qu'est-ce qui domine? C'est l'immanence du vivant. Forcément. Si l'objectivité n'est plus que la relation, alors à ce moment-là, la subjectivité prend tout. Et c'est elle qui donne le fondement à la relation. La relation n'existe qu'en raison de ma pensée. Et c'est ma pensée qui crée la relation, donc l'être. Vous voyez, c'est très étonnant cela. Et ça, je crois que c'est très important de le voir. Voir que toute pensée philosophique, parlera de la relation et de la substance. Et de voir ce que la pensée philosophique dit sur la substance et ce qu'elle dit sur la substance, ce qu'elle dit sur la relation. Qu'est-ce qui est première, la substance ou la relation? Dans l'ordre de l'être, la relation est l'être le plus débile, dit Aristote. On va revenir là-dessus. C'est l'être le plus débile. La relation de raison ou la relation réelle, toutes deux sont relations. Donc, on voit très bien que la primauté de l'être s'efface devant la relation. Et la relation reste vraiment relation, qu'il s'agisse d'une relation de raison ou de relation réelle. Et par le fait même, si la relation est considérée comme première, objectivement, elle est extrêmement ténue. L'être le plus débile. Si l'objectivité est extrêmement débile, c'est la subjectivité qui compense tout. Et la subjectivité, l'immanence de la vie, de l'esprit. Ce n'est plus l'objectivité, c'est l'immanence de la vie de l'esprit qui est fondement de toute relation. C'est très important de voir cela. C'est très curieux. C'est un phénomène intéressant qui est le phénomène de notre époque où la philosophie hegélienne est considérée comme la philosophie. Et on louche toujours sur Hegel pour arriver à une nouvelle théologie sans s'apercevoir que si on fait une nouvelle théologie en se servant de Hegel, on perdra la foi. Et la foi sera subjective, sera une question de sentiment, une confiance. Et l'adhésion d'intelligence disparaîtra. Je crois que c'est important de voir cela pour nous, pour bien comprendre ce que l'Église nous dit dans l'encyclique du pape. Puisque cette encyclique nous est donnée, n'est-ce pas, raison de plus, si elle était donnée du temps de Léon XIII, elle serait toujours présente pour nous, mais elle n'est pas donnée du temps de Léon XIII, elle nous est donnée pour nous, actuellement. Donc, il y a à nous rappeler que l'Église n'a pas de philosophie propre. Notre responsabilité humaine est donc entière du côté philosophique et du côté métaphysique. Nous sommes entièrement responsables d'accepter une philosophie réaliste ou d'une philosophie idéaliste. Ce n'est pas une question de foi. L'Église n'a pas de philosophie. Mais l'intelligence est faite pour la vérité. Et ça, c'est radical. Il n'y a que cela qui maintient mon intelligence dans la vérité. Elle recherche la vérité. C'est-à-dire, elle accepte que la réalité la mesure. Et ce n'est pas elle qui mesure la réalité. Si c'était mon intelligence qui mesurait la réalité, ce serait ce que je pense qui serait le principe de la vérité. Alors, voyons bien pourquoi Aristote dit que la relation est l'être le plus débile. Parce que la relation ne peut pas exister toute seule. La relation me projette vers l'autre. On est relatif à l'autre. On peut être relatif à soi, mais on sait que c'est nous-mêmes qui faisons ça. Je ne suis pas relatif à moi, mais je suis. Donc dire que je suis relatif à moi, c'est oublier que je suis. Avant d'être relatif à moi-même, je suis. Et je me regarde à la glace, comme le petit chat. Et je me vois double. Autrement, je suis unique. Celui qui se voit toujours double, y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il est. Soyez vous-même, puis relatif aux autres. Et pour être vraiment relatif aux autres, il faut être vous-même. Parce que si vous ne donnez à l'autre que la relativité à l'autre, c'est très maigre. Dans l'amitié, l'ami n'est pas relatif. Il est lui qui se donne à son ami. Et il est l'ami avant d'être donné à son ami. Autrement, il ne pourrait pas être l'ami. Toute relation présuppose quelque chose d'avant la relation. La relation n'est pas première. Elle se fonde sur quelque chose et elle n'existe que grâce à son fondement. Donc, elle n'existe pas par elle-même. Elle n'est pas première. Dans une procession, il n'y a que le premier qui est lui, qui sait ce qu'il fait. Les autres suivent. On dit, mais suivez, tout simplement. Pas besoin de savoir ce que vous faites, suivez. Tandis que celui qui est premier, je dois savoir, moi. Il faut diriger. Donc, être second, c'est être relatif. Et dès qu'on est relatif, on est et on est relatif. Vous n'êtes jamais totalement relatif. Vous ne seriez pas. La relation implique un fondement. Et donc, le fondement détermine la relation. Il y a une relation de similitude, il y a une relation de contrariété. Avec votre voisin, où vous êtes semblable à lui pour certaines choses, où vous êtes différent de lui et contraire à lui pour d'autres choses. Les goûts et les couleurs peuvent diversifier, mais quelque chose de plus profond, ma finalité me rend semblable à l'autre. J'ai la même finalité que lui. Je recherche la vérité. Donc, au point de vue relation, vous avez tout de suite deux types de relations. La similitude, la contrariété. Ah. La relation est toujours similitude ou contrariété. Vous n'avez pas de relation qui est relation pure. Non, on ne peut pas. La relation ne peut pas être pure parce que elle a un fondement. Donc, elle est deux. Il y a la relation et son fondement. Et l'être de la relation est qualifié par le fondement. Puisque vous avez la relation de similitude et la relation de contrariété. Où la relation est-elle la plus forte ? Dans la similitude ou dans la contrariété ? Vous allez me dire, ça dépend. Ça dépend. J'ai une haine farouche contre quelqu'un. Contrariété. Farouche. Une haine noire. Il faut le détruire. J'ai une similitude extraordinaire vis-à-vis de mon ami. Ah, j'ai jamais rencontré ça. Ah, jamais. Ah, je voudrais bien fusionner avec lui, faire plus qu'un avec lui. Oui. Et la relation de similitude disparaîtrait. Je ne serais plus qu'un avec lui. Donc, ces deux relations, similitude, contrariété, dépendent de leur fondement. L'intensité de ces relations dépend de leur fondement. Pas de la relation, c'est du fondement. Il faut fondement de similitude, fondement de contrariété. Donc, la relation est un être très débile parce qu'elle n'est pas directement un accident qui s'appuie sur la substance. La relation s'appuie toujours sur la qualité ou sur la quantité. Toujours. Elle s'appuie sur l'action ou sur la passivité. Quand vous donnez un coup de poing à quelqu'un, ne le faites pas, hein. Quand vous donnez un coup de poing à quelqu'un, vous êtes en relation avec cette personne. Vous êtes actif et l'autre est passif. On voit bien, on est en relation. Mais ce n'est pas la substance qui fait ça, non. Il y a des gens qui sont passifs, d'une passivité extrême, ils ne sont que passifs. Passivité radicale, mais elle n'est jamais radicale. Il faudrait qu'elle atteigne directement l'être. Alors vous auriez la relation avec Dieu. Il n'y a qu'avec Dieu où le fondement de la relation est l'être. En dehors de Dieu, c'est toujours un autre accident. C'est très curieux. L'être de la relation est très subtil. Il échappe. Vous essayez de le saisir et vous n'arrivez pas. Parce que l'être de la relation est donné par le fondement. Et par là, j'atteins la substance. Une relation de similitude, j'ai avec mon voisin cette très grande similitude au point de vue intellectuel. On comprend toujours de la même façon. Toujours. On est... Ah, c'est merveilleux. Toujours. Vous voyez, on est en relation de similitude au point de vue de l'intelligence. Le fondement de l'action, c'est ce que vous comprenez. Le vécu de l'intellectuel. Alors vous voyez la phénoménologie. Le vécu est semblable au vécu. Et je suis en relatif avec lui. Par ce vécu. Quand l'être est le vécu, et que je ne vois pas autre chose que le vécu, la relation devient très importante, puisque c'est mon vécu et mon être qui est en relation. Ce qui n'était que pour Dieu devient réel pour mon ami. Pour le phénoménologue, mon ami remplace Dieu. Je suis tellement en relation, l'ami devient Dieu. Je suis totalement en relation avec lui. Alors que je devrais toujours dire, ah, attention, je suis en relation avec mon ami parce que nous pensons de la même manière, parce que, au point de vue de notre vie, mais au point de vue de notre être, il est indépendant. Et je respecte cette indépendance. Si je ne respecte pas cette indépendance, je tue l'amitié. Et il y aura la fusion qui aboutira à la catastrophe. Ça aboutira à la catastrophe. Je n'aurai plus de vie. Je serai tout entier relatif. Je peux être tout entier relatif à Dieu, mais rien qu'avec Dieu, je peux être tout entier relatif. Je ne peux pas être tout entier relatif à une créature. La relation ne touche pas la substance. Il y a toujours un fondement entre deux. Tandis que tous les autres prédicaments touchent directement la substance et existent à cause de la substance, de leur relation, de leur dépendance avec la substance. La qualité, la quantité, l'action, la passion. Toujours. dit que la relation, il y a un fondement. Alors, vous voyez, puisque la relation n'existe que par le fondement, je peux, quand j'ai une philosophie de la relation, je peux être le fondement radical de toutes les relations par mon vécu. C'est très curieux. La relation demeure pour le philosophe quelque chose d'un très très important, puisque la relation étant le plus débile des êtres peut être rival de l'être, puisque il y a des relations de raison et la relation est, même quand elle est de raison, même quand elle n'existe pas, donc elle peut être rivale de l'être. Elle peut dire à l'être, tu existes, moi je n'existe pas, mais je suis bien plus important que toi. Et la relation, à ce moment-là, se fait substance. Et quand la relation se fait substance, je n'ai plus besoin de Dieu, je suis Dieu. C'est moi qui suis le fondement direct de la relation. J'ai absorbé Dieu et je suis identique à Dieu. Vous voyez, quand on est en face d'une philosophie, il faut toujours regarder ce que le philosophe dit de la substance, ce qu'il dit de la relation. Et quand vous voyez ce qu'il dit de la substance et de la relation, vous vous posez la question, est-ce que la relation est avant la substance ou est-ce que la relation est après la substance? Et l'ordre qui existe entre substance et relation est très révélateur pour une philosophie idéaliste. La relation est première et la substance se saisit relativement à la relation. Pour une philosophie réaliste, la substance est première et la relation se saisit en fonction de la substance. Il y a là une clé pour comprendre un auteur philosophique. C'est capital. Ce sont les deux voies, vous voyez. La découverte de la substance, la découverte de la relation. Ce qui est intéressant à voir, c'est que si je mets la substance première, comme dans une philosophie réaliste, je peux saisir ensuite la relation. Si je mets la relation première, je ne peux plus saisir la substance. Et c'est ça qui montre que la seule philosophie qui met la substance première peut être philosophique et peut accepter de comprendre le réel jusque dans sa faiblesse de la relation. C'est très intéressant ce point de vue-là. Seule une philosophie réaliste qui met la substance comme principe propre de ce qui est selon la cause formelle peut saisir la relation. Tandis qu'une philosophie qui met la substance première, qui met la relation première, premier Hamelin. Hamelin voudrait faire une philosophie en mettant la relation avant tout. Je prends Hamelin parce que Hamelin est facile à lire et que c'est pas commode. on met du temps à le lire. Tandis qu'Hamelin, c'est très clair et c'est très intéressant. On voit tout de suite ça. Ça saute aux yeux. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est très très important d'avoir une vision très précise de la relation, une vision très précise de la substance. C'est ça qui vous sauve. Ça vous sauve. Une fois que vous avez ça, vous pouvez y aller dans le combat du petit David en face de Goliath. Vous voyez tout de suite les failles. Parce que vous avez les deux extrêmes de l'être. Les deux extrêmes. Une philosophie de la substance voit en premier lieu la substance et la relation extrêmement débile. Elle risque toujours d'en s'enfermer dans la cause formelle. Parce que la finalité, nous ne pouvons la saisir qu'en étant relatif à elle. Vous n'avez pas d'expérience immédiate du bien absolu qui vous attire, mais vous en avez une expérience par l'attraction qu'elle subit. C'est une relation. Vous subissez son attraction. Et en subissant cette attraction, vous vous laissez prendre par elle. Et vous reconnaissez alors qu'au point de vue finalité, la relation est très importante. Je vis de ma fin ultime. Je me laisse prendre et attirer par elle. Mais je ne l'ai pas substantiellement, je n'ai pas d'expérience de la bonté en soi. Vous n'avez pas expérimenté une personne qui est entièrement bonne, substantiellement bonne. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez que subir son attraction. Et vous ne la saisissez pas comme substance. C'est pour ça qu'une philosophie qui ne regarde que la substance, Spinoza, oublie la finalité. Dans la philosophie hegelienne, on oublie la finalité. Parce que la philosophie hegelienne voudrait faire la synthèse de la finalité et de la substance. Ne voyant que la relation, elle oublie la substance. Donc, on oublie la transcendance. Vous voyez ? À ce point de vue-là, c'est très intéressant. Spinoza, Hegel. Philosophie de la substance, philosophie de la relation. Et toutes les deux oublient la finalité. De deux façons totalement différentes. Nous voyons donc qu'une philosophie de la relation, première, regardera la similitude et la contrariété comme les éléments essentiels. Et vous serez dans la dialectique. La dialectique, c'est de découvrir les similitudes et les contrariétés. Pour passer toujours de la similitude à la contrariété. Mais je reste dans l'immanence. Je ne la quitte pas. C'est juste l'inverse de l'analogie. pour avoir une philosophie vraiment de l'analogie, il faut saisir la réalité dans la substance et la réalité dans la relation. Et on voit leur ordre propre. Il faut avoir un sens analogique de l'être pour saisir l'être substantiel, pour saisir l'être relatif. Donc, la relation est toujours quelque chose de très débile à saisir dans une philosophie réaliste. Je suis donc tenté de regarder la relation pour elle-même dans une phénoménologie où je vois le relatif, je ne dis plus la relation, le relatif comme l'élément principal. Je suis moi-même relatif à l'autre. Je suis moi-même relatif dans ma personne, relatif à l'autre. Et je n'analyse plus ce relatif, je le prends en lui-même, comme synthèse et relation. Et donc, comme quelque chose qui est le sujet de toutes les relations. La personne devient le centre de toutes les relations, celui qui harmonise ses relations, celui qui met l'ordre à toutes ses relations, mais d'une façon immanente. Il n'y a plus aucun sens de la transcendance, puisque la substance n'est plus saisie comme un au-delà et comme première dans l'ordre de l'être. Il y a donc cette tentation permanente de laisser la relation prendre le pas sur la substance. Parce que la relation, elle est immédiate dans ma conscience. Quand je réfléchis sur moi-même, je suis un être relatif à Pierre, Jacques, Jean, Arthur, Sophie, un relatif, un réseau de relations. Et puis quand dans ce réseau de relations, il y a le permettre, ah, c'est très spécial. Il y en a un qui prime, il est premier dans les relations. Quand je ne regarde plus ces relations comme le prima et que je saisis la substance, ah, le premier est transcendant. Il n'est pas le premier dans la série des relations, mais il transcende. Et c'est à partir de lui que je mets l'ordre. Il y a deux manières d'ordonner et d'ordonner notre vie, où on l'ordonne en fonction d'un premier objectif, Dieu, où on l'ordonne en fonction d'un premier subjectif relatif, non pas transcendant, immanent. Et dans toutes les relations, je saisis la relation première. Voyez, très curieux. Et c'est très intéressant à voir. L'organisation de votre vie se fait ou en fonction d'un premier transcendant, ou en fonction d'une immanence et en fonction de relatif immanent, dans lesquels vous considérez que l'un passe avant les autres, mais c'est vous qui vous attribuez cette primauté, qui attribuez cette primauté. Elle n'est pas objective, elle est subjective. Et vous ne pouvez pas avoir un ordre objectif en commençant par la relation, le relatif. Vous avez une série de relations et vous mettez un ordre en fonction des circonstances et conditions, en fonction de choses secondaires, pas premières, parce que tout est relatif. Et vous choisissez le premier dans les relatifs, pas le premier en soi, mais le premier relatif. C'est très curieux de voir cela. Et ça, vous pouvez tout de suite le voir. Comment faites-vous, ordonnez-vous votre vie? Est-ce que c'est en fonction d'un premier transcendant ou est-ce que c'est en fonction d'un premier immanent? Il n'y a pas de premier immanent. C'est celui que je choisis. Je me donne à moi-même ce premier-là. Tandis que le premier transcendant, je ne le choisis pas, je le découvre. Il s'impose à moi. C'est très important, ça fait comprendre encore le point de vue de la substance et de la relation.